Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Je confesse mon malaise. C'est malaise. Quand on voit Montréal, le gouvernement du Québec, se lancer la balle, sur qui est plus responsable que l'eau du brasier qui aurait coûté la vie, rappelons-le, 6 à 7 personnes en lieu Montréal? On n'a même pas encore fini de trouver les corps, là. On en a trouvé un. Ou ce qui en reste, qu'on commence le festival du pointage de doigts. J'appelle ça le Festival international du pointage de doigts. On est bon là-dedans, nous. On peut-tu enterrer nos victimes dans la sérénité et la dignité? Je pose la question. Et non, je sais que c'est pas populaire ce que je vais dire, mais je pense pas que ça soit Airbnb qui a allumé le feu. Je pense pas que ça soit l'entreprise qu'on aime détester puis qui sont tellement loin qu'on va toutes les pointer du doigt. C'est-tu Airbnb qui a allumé le feu? C'est-tu parce que c'était une location illégale que le feu a pogné? Poser la question, c'est y répondre. C'est une tragédie et c'est épouvantable. Puis je pense aux parents qui ont perdu leur fils et leur fille. Je pense aux proches de cette jeune femme touriste dont les parents qui habitent en Chine ont reçu un appel pour se faire dire que leur fille est non seulement disparue, mais qu'elle est probablement décédée dans ce feu-là. Je pense à toutes ces personnes qui voient la mairesse Plante et la ministre du Tourisme se parler par médias interposés et j'ai juste envie de leur dire une chose à toutes ces personnes-là proches des victimes, c'est pardon. Je m'excuse pour notre manque collectif d'humanisme, notre manque de délicatesse. La réglementation annoncée par la ministre Prou hier, là, qui vient resserrer la vis à Airbnb, eh bien, ça tombe sous le sens, OK, mais elle aurait pu l'annoncer il y a une semaine avant le brasier et ça n'aurait absolument rien changé parce qu'encore une fois, une location temporaire ne veut pas dire que c'est une location qui mène au feu. Puis là, j'ai l'impression qu'on fait des débats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle aurait pu la faire adopter il y a un mois ou dans un mois. Mais jamais, 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 ça n'aurait permis de prévenir que le feu pogne. On va le dire tel que c'est, là. Arrêtez de tourner autour du pot. La mairesse doit aussi prendre sa part de responsabilité devant le fait qu'on ait toléré aussi longtemps un bâtiment qui n'a pas d'issue de secours, pas de fenêtre. Ben beau le bâtiment patrimonial, là, mais est-ce qu'il y a des inspecteurs qui s'assurent que les bâtiments, ils sont sécuritaires? Qu'ils soient des locations temporaires illégales, pas illégales, légales, pas légales, des résidences principales, secondaires, name it, là. Peux-tu s'assurer que ça respecte le code du bâtiment et d'y remédier le cas échéant? J'ai encore une fois une pensée pour les parents de ces jeunes et les parents de la touriste chinoise dont on a eu l'identité ce matin. Et je me dis qu'on leur doit au moins ça. On leur doit au moins de traiter ce décès tragique avec humanisme, délicatesse et dignité. Bienvenue à Cube.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Le jour du budget de la province, budget qui va être lu par le ministre des Finances dans quelques heures. Et la tradition veut que le ministre des Finances, peu importe le gouvernement, s'achète de nouveaux souliers la veille du budget. Puis là, ils font ce qu'on appelle un photo op, là, une prise de photo de la part des journalistes de la Tribune. Puis là, ils chaussent ces nouveaux souliers. Puis c'est souvent l'occasion de donner un avant-goût de ce qu'on aura dans le budget du lendemain. Tu sais, on se rappelle que le ministre Girard avait déjà chaussé des patins à glace pour dire que Québec va aller plus vite, va accélérer sa croissance. On se rappelle qu'un autre ministre des Finances, il est allé chez le cordonnier rafistoler ses vieilles chaussures plutôt que d'en acheter des neuves. parce qu'il allait nous annoncer des compressions budgétaires. Il y en avait un autre qui avait acheté des chaussures Aldo pour dire que c'est de l'achat local qui va être une priorité. Mais là, cette année, c'est fini la tradition, c'est fini ce rituel. Le ministre Girard, il a dit « Non, j'embarquerai pas là-dedans. Fait que je vais juste faire une donation à un organisme communautaire, mais j'irai pas m'acheter de nouveaux souliers. » Et je dois le dire, là, je confesse un petit pincement au cœur. Moi, j'aime ça les traditions, surtout quand elles sont politiques. Et j'ai pensé qu'on pouvait revenir sur ces traditions qui marquent finalement notre vie politique. On revient là-dessus avec Jocelyn Saint-Pierre, historien et retraité de l'Assemblée nationale. Bonjour, M. Saint-Pierre.
Bonjour, madame.
Comment vous avez réagi devant la décision du ministre des Finances d'arrêter cette tradition?
Ah, ben écoutez, pour un historien, les traditions, ça fait partie de l'histoire, hein? C'est des acquis. Et ben au Québec, comme on a un parlement de tradition britannique, ben forcément, nos traditions sont d'origine britannique. Disons que moi, ben, étant donné mon âge avancé, je préfère qu'on garde les traditions, mais bon, faut peut-être les adapter aussi au goût du jour.
Parlons-en des traditions. La vie politique est ponctuée de différentes traditions. Moi, j'ai pu vivre certaines, mais je suis sûre que ça n'a rien à voir avec la connaissance que vous avez de toutes les traditions un peu inusitées. Celle qui me fait toujours sourire, c'est lors de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et lorsque les chefs de parti viennent le prendre par le bras, puis lui qui fait semblant qu'il veut pas y aller, puis qu'on le pousse jusqu'au trône. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on connaît moins?
Oui, ben l'affaire des souliers, ça c'est un classique, hein. En fait, ça vient encore d'Angleterre. C'est autour du 17e siècle, c'est pas très jeune. La rumeur circulait que le chancelier de l'échiquier, qui est le ministre des Finances, baisserait les taxes sur les vêtements. Alors, pour faire taire la rumeur, lui, il s'est procuré des souliers et il a payé la taxe avant qu'il soit détaxé. Alors, c'est un peu le fond de l'histoire. Le ministre M. Girard a donné, je pense, c'est à Limoilou ou pas trop de Limoilou?
Pour vous parler du don qu'il a fait, c'est au centre communautaire du docteur Julien.
Ah, OK. Bon, ben sinon, si ça avait été pour acheter des souliers sport aux jeunes, la tradition aurait été respectée.
Oui, c'est ça, exactement. Mais on voit qu'on essaie à chaque année d'innover pour les souliers, mais à la base, là, c'était juste des nouveaux souliers.
Dans le fond, ça, c'est pas très grave. Là, il y a d'autres traditions qui sont aussi intéressantes. Là. Mais vous savez qu'en Angleterre, on l'a abandonné. Hein? On parle d'une mallette rouge avec et le chancelier de l'échiquier boit la boisson de son choix. À ce sujet-là, ben j'ai des anecdotes intéressantes sur le verre de gin du ministre des Finances.
Allons-y.
Oui. Alors, ben, c'est une tradition au Québec là qui date de très longtemps. C'est que le ministre des Finances, lorsqu'il fait son discours, boit du gin dans son verre qui a la couleur de l'eau. Alors, c'est arrivé à quelques reprises et M. Lesage a été un grand ministre des Finances, un des très grands ministres des Finances, et il aimait le gin. Alors, on peut supposer que quand il faisait son discours, il buvait du gin.
Est-ce qu'il articulait...
L'Union nationale faisait toujours des blagues, à savoir que à chaque fois que les pages allaient porter un verre d'eau à M. Lesage, ben là, on lui demandait si c'était bien de l'eau ou si c'était du gin. Alors, ça, M. Lesage s'emportait facilement.
Est-ce qu'il articulait moins bien à la fin?
C'est vraiment de mauvais coup que les collègues de M. Gérard Delévesque lui avaient fait. Alors, avant de commencer son discours, pensant qu'il prend un verre d'eau, il prend une bonne gorgée dans son verre et ses amis avaient mis du gin. Alors, il avait été très, très surpris. Voilà.
Sinon, est-ce qu'on pense que M. Lesage, il articulait moins bien à la fin de son discours qu'au début du discours? Peut-être que...
Je ne sais pas. Les mauvaises langues diraient que ça le rendait encore meilleur, mais M. Lesage, c'était un orateur exceptionnel. Là. Alors, ses discours, puis bon, on les a pas parce qu'il n'y a pas de télévision à l'époque, là, mais ses discours, de par le texte, c'était des discours exceptionnels. Voilà.
Et pourquoi abandonner aujourd'hui sur cette tradition, quand on sait qu'au Canada, par exemple, Christophe Freeland, elle a porté des escarpins aux dernières élections, puis elle l'a mise un peu à sa sauce, là, pas comme les ministres des finances masculins dont on a l'habitude. Pourquoi vous pensez qu'on a voulu rompre avec cette tradition?
Ben, en fait, on se met au goût du jour, hein. Vous avez entendu parler de la disposition des sièges à l'Assemblée, hein. On est dans la modernité. Parfois, l'histoire, pour plusieurs personnes, c'est comme un poids, hein. Mais pourtant, sans histoire, on risque de répéter les vieilles erreurs. Et si tu penses, c'est dans l'air du temps. Là, moi, on a de tradition. Il y a plein de traditions qui disparaissent, hein, dans la vie commune, dans les réceptions. Mais je pense dans la tradition du mi-carême, par exemple, qui était une tradition très importante. Ben ça n'existe plus. Alors, mais pour les puis aussi le fait que peut-être ça vient d'Angleterre aussi, hein. On est encore, c'est la royauté, ben c'est sûr que la tradition la plus forte et la plus importante, c'est la tradition de la royauté. Mais on pourrait, une tradition, ça se crée à un moment donné, hein. Ça, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis après ça, ben ça s'est remplacé par autre chose. Mais en tout cas, si on a encore le temps, j'ai un dernier événement qui est super important.
Oui.
C'est en 1987, le journaliste Ralph Nosworthy a eu accès au texte du discours du budget une semaine avant la date prévue.
Et hey, ça fait stresser des ministres puis des attachés politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors, les mauvaises langues disent que M. Nosworthy se baladait dans les proches des bureaux du ministre des Finances dans l'édifice Honoré Mercier. Alors, ce qui s'est passé, c'est encore M. Lévesque, le Gérardin Lévesque, qui était au prix avec ce problème-là. Alors, je me souviens d'avoir vu M. Lévesque et M. Bourassa à la télé, là, qui étaient un peu consternés. Et finalement, ils ont décidé de devancer de toute urgence le discours la journée même qu'on l'a su. Alors, le discours de M. Lévesque il n'y avait pas eu de huis clos. Le discours de M. Lévesque a été prononcé dans la soirée.
Ça précipite les choses. Disons, les ministres n'aiment pas vraiment que l'embargo ne soit pas respecté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si la situation se répétait, un journaliste publierait les informations contenues dans le budget ou est-ce qu'il contribuerait à maintenir l'embargo?
Faut dire que M. Nosworthy, c'était un chercheur de scoop, hein. Il était réputé pour ses scoops et, peut-être que, puis là, maintenant aussi, avec le huis clos, là, avec les journalistes, c'est un peu pour prévenir tout ça, hein. Les membres de la Tribune de la Presse, en particulier, sont dans le huis clos. Donc, ils ont toute l'information. Et puis, mais c'est important qu'on respecte le huis clos parce que dans des mesures, il y a des mesures financières, là, il y a des gens qui, si vous apprenez, par exemple, un emprunt ou un versement quelconque, il y a des gens qui pourraient jouer à la bourse avec ces informations-là. Et aussi, dans le domaine financier, ben, ça pourrait être délicat aussi. Alors, c'est un peu pour ça qu'on fait le huis clos.
Évidemment.
C'est pourquoi tout le monde soit au même diapason aussi.
Il faut que le huis clos, ça devient aussi une sorte de rituel où tout le monde converge vers le centre des congrès de Québec d'habitude, où on est enfermé, pas de cellulaire, pas de réseau.
Encore là, c'est des traditions. En fait, ce qui fait la tradition, c'est de répéter toujours les mêmes gestes, hein? C'est ça qui fait la tradition. Quelqu'un le fait, on trouvait que c'était bien, on va le refaire. Puis le Parlement, c'est un lieu, nos institutions politiques. Le discours des chefs, c'est une tradition. Ça n'a pas toujours existé, le discours des chefs. Le premier qui a eu lieu, c'est en 1961. Bon, maintenant, c'est devenu une tradition. Il y en a plein. La façon de s'habiller aussi à l'Assemblée.
Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes historien et retraité de l'Assemblée nationale et vous avez une bonne mémoire de toutes ces traditions qui qui ponctue notre vie politique à Québec.
Merci, c'est gentil.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, cette amitié éternelle qui lie la Russie et la Chine est à l'image de l'amitié éternelle que j'ai avec toi.
Alors que le monde s'en tienne pour prévenu. Les autres, vous êtes foutus. C'est toute une visite, hein, la visite du président chinois Xi Jinping qui fait une visite à l'extérieur, évidemment, de son pays, ce qui est assez rare. Et il s'en va en Russie. C'est encore plus rare. Et il va pour 3 jours. Alors, on veut vraiment marquer, ne serait-ce que parce que le langage international de la diplomatie, c'est des symboles, une visite de 3 jours d'un leader aussi puissant, c'est très, très, très significatif. Et lorsqu'on regarde les publications des uns et des autres, parce que les deux chefs d'État ont fait des lettres ouvertes dans les journaux, on passe essentiellement de l'amitié sans limite, qui était la base de la relation entre les deux avant la guerre en Ukraine, à là, une amitié éternelle. Alors, sortir au dictionnaire de superlatif, véritablement, là, il n'y a pas beaucoup de lumière entre la Russie et la Chine. Ce sont des alliés très forts, mais des alliés, je vous dirais que et Yasmine, il y a quelque part, on dit des fois que les meilleurs partenariats sont quand deux égoïsmes se rencontrent. On est véritablement dans ce cadre-là, lorsqu'il est question de la Russie et de la Chine, par exemple, les Russes, eux, voient la Chine comme étant un marché magnifique qui est très, 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 qui est assoiffé, qui est affamé de ressources de matières premières, et ça donne bien parce que la Russie, c'est ça qu'ils produisent, eux, du minerai, du gaz naturel, du pétrole. Et bon, ben, il n'y a pas tellement de monde sur le marché pour leur en acheter. Et ils ont une frontière, bien qu'elle est à l'autre bout de l'Orient, ils ont une frontière commune. Alors ça, c'est génial. Au plan militaire, mais là, on prie à genoux que la Chine pourrait être un fournisseur intéressant pour du matériel militaire, ou à tout le moins du matériel qu'on appellerait non létal. C'est-à-dire tout ce qui peut servir à une armée, mais qui ne sont pas essentiellement des choses qui peuvent tuer l'autre camp, mais qui sont essentielles, que ce soit de l'approvisionnement, du matériel technique et autres. La Russie a besoin de la Chine. Pour la Chine, les intérêts égoïstes chinois face à la Russie, bien évidemment économiques, aller chercher du matériel, militaire, parce que très bientôt, le conflit avec Taïwan pourrait être encore plus important. Et on veut être sûr qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir éviter un conflit qui aurait trop de fronts en même temps. Mais surtout, surtout, Yasmine, un partenaire géostratégique. C'est-à-dire que si demain matin, la Russie devait s'effondrer, si le régime Poutine devait s'effondrer et que la Russie devienne une démocratie florissante, oubliez ça, en 1000 ans d'histoire, c'est jamais arrivé. Mais si jamais Poutine tombait, ben c'est un adversaire de moins dans une lutte infiniment plus grande que celle entre la Russie et l'Ukraine, qui est dans quel genre de monde on va vivre? Est-ce que c'est un monde dominé par une certaine vue américaine ou occidentale, la règle de droit, la démocratie, le droit international, ou ce sera un monde où les pays ne font affaire que sur la base de leurs intérêts très égoïste et que les régimes autoritaires peuvent traiter avec tous les autres sans impunité. Dans ça, la Russie et la Chine sont dans le même camp. Et c'est ça qui rend la visite très intéressante. Et tout le monde se demande, est-ce qu'au sortir de cette réunion-là entre la Chine et la Russie, il y aura une entente, une volonté de la Chine de dire nous allons être l'équivalent des États-Unis et de l'OTAN à la Russie, ce que les États-Unis et l'OTAN sont à l'Ukraine.
Oui.
Ça, ce serait problématique. Et c'est là où la Chine, véritablement, marche sur une ligne incroyablement fine, là. C'est-à-dire, on veut absolument, on a tout à gagner que la Russie ne s'effondre pas, que la Russie reste un compétiteur, un adversaire, un problème pour l'Occident, que la thèse des leaders autoritaires qui font ce qu'ils veulent chez eux sans problème financier, sans conséquence, ça tienne. Mais en même temps, qui ici pourrait se permettre de se passer de 400 millions de consommateurs européens et 400 millions de consommateurs nord-américains.
Pas grand monde.
Personne n'est assez riche pour ça, là. Alors là-dessus, la Chine est véritablement, comment je peux avoir, on dirait en anglais, comment je peux avoir mon gâteau et le manger en même temps? Comment je peux avoir le marché occidental, mais en même temps m'assurer que la Russie, mon partenaire, ne tombe pas? Et là, le but chinois ici, c'est d'avoir les deux. Et c'est pour ça, bizarrement, que le plan de paix, la proposition de paix chinoise, que j'appelle, moi, le plan de paix pour la Chine, pas pour l'Ukraine ni la Russie, c'est de dire, ben, il devrait y avoir un cessez-le-feu, en filigrane, lisez, donner du temps à Vladimir Poutine pour se préparer encore plus, et en même temps, la levée des sanctions contre la Russie. Ça, c'est pas un accord de paix, c'est un accord pro-Poutine.
C'est ça. C'est
alors, on voit, dans tout ça, on pourrait appeler ce sommet-là, Yasmine, le sommet de la coalition de l'autre monde. Un monde qui se voit véritablement en compétition avec l'Occident et le genre de monde que ça organise.
Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est rendu au point de dire qu'il y a un rebrassage de cartes, un repositionnement des forces diplomatiques en place et que la Chine aujourd'hui, elle montre de quoi elle est capable. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Puis là, maintenant, elle est vraiment dans une offensive de repositionnement stratégique.
Je pense que tu le dis bien. Parce qu'il y a deux... À la fin, là, c'est un coup de l'eau d'érable. Là, si on fait bouillir là, ce qui reste à la fin, c'est au moins deux choses absolument fondamentales qui nous permettent de comprendre pas mal ce qui se passe là autour de nous. La première chose, c'est la mort... de l'expectative des années 90. On se souvient, là, c'était la fin de l'Union soviétique, l'effondrement du mur de Berlin. Cette idée que le monde serait essentiellement juste une grande place d'affaires gouvernée par des règles internationales, par l'OMC, par exemple. Et si des pays ont des conflits, ce sera des conflits du style « charge trop cher de taxes sur mes produits, un tribunal va trancher, puis on va régler ça ». Versus le monde des blocs, hein, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, ce qu'on avait vécu. Mais ce monde-là, ou le cadre imaginé des années 90, il est, je pense, pas juste en état de mort, il est maintenant bien enterré. On revient de plus en plus à ce monde de blocs. Ça, c'est notre premier pilier. L'autre pilier, c'est la place de la Chine dans le monde. Et là, là-dessus, nous, peuple de jeune histoire, puis on pourrait même mettre l'Europe de l'Ouest là-dedans comparé à la Chine. La Chine, c'est une civilisation plusieurs fois millénaire. Et dans la vaste histoire du monde, à part les 200 dernières années, la Chine était une superpuissance. Alors pour les Chinois, c'est pas la montée de la Chine, c'est le retour à la normale. Et ça, veut pas, ce sera un ajustement avec lequel il va falloir que nous ayons à composer. Et qui ne sera pas un ajustement facile et nécessairement confortable.
Sinon, parlons de ce qui se passe aux États-Unis. Écoute, je regarde CNN, je surveille ça, toutes les notifications sont allumées dans mon cellulaire. Il me semble qu'il n'a pas encore été arrêté, notre Trump national.
Non, mais il a réussi, par exemple. Il a réussi à liquer le Parti républicain derrière lui. Imaginez, là, même les républicains au Congrès, parce que ce qui se passait, là, ou ce qui se passe à l'État de New York, c'est de l'ordre du droit de l'État. Hein, on se souvient, aux États-Unis, il y a du droit d'État et il y a du droit fédéral. Et là, c'est une affaire parfaitement État de New York. Le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Mais quand même, les républicains au Congrès vont prendre leur pouvoir spécial d'enquête pour savoir s'il y aurait de l'argent fédéral qui aurait été utilisé là-dedans. Donc, c'est une manière, bizarrement, il aura réussi, peut-être encore plus, à montrer que l'emprise de Donald Trump, qui n'est pas élu nulle part, est encore incroyablement grande sur le Parti républicain, qu'il soit arrêté ou pas. Alors, vous voyez que ici, la manœuvre de jouer l'intérêt des médias, de mobiliser les gens qui croient en lui et de faire passer pour des traîtres au parti ceux qui ne sont pas complètement enlignés pour Trump, mais à date, ça fonctionne. On verra pour la suite, mais c'est peut-être une des meilleures semaines de Donald Trump dans sa reconquête du Parti républicain.
C'est assez particulier quand on entend aussi toutes les discussions et tous les reculs du droit des femmes également aux États-Unis auxquels on assiste jour après jour, puis les tabous qui commencent à s'installer. Puis hier, on parlait de l'éducation sur le système de reproduction féminin. Puis là, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, de la pilule abortive qui... Elle devient de plus en plus difficile à trouver dans certains États américains, Guillaume?
Elle est sous assaut de deux parties. On en avait parlé pour une, mais voici ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait arriver très, très tôt là, dans les jours qui viennent. D'abord, il faut savoir que la moitié des avortements aux États-Unis sont par la pilule abortive. Donc, c'est énorme comme quantité, là. Parce que ce qui est, sinon, l'autre option, c'est plutôt des interventions de type médical en clinique. On sait que depuis le jugement Dobbs, celui qui met à mal ou en fait qui efface le jugement Roe v. Wade, l'accès à l'avortement est maintenant une question totalement politique qui relève des États. Et tous les États vont faire leur propre recette. Certains États seront encore plus conciliants, d'autres beaucoup moins. Et là, l'État très conservateur du Wyoming vient directement d'interdire la pilule abortive sur son territoire. Point barre. Et en même temps, puis là, vous allez me dire, mais peut-être que ça, c'est un État sur 50, là. Ben, pour tous les autres, au Texas, en Cour fédérale, sous une entourloupette d'évaluer que peut-être on n'aurait pas dû accepter ce médicament-là, il pourrait y avoir un jugement, parce que le juge qui a été nommé à l'époque par Donald Trump est très, très conservateur. Il n'est pas impossible qu'en faisant sauter l'approbation de l'équivalent de Santé Canada, la Cour fédérale du Texas décide que la pilule abortive n'est pas quelque chose de sécure pour l'ensemble du territoire américain. Alors, est-ce que à court terme, ça va créer, je dirais, des angoisses et des problèmes? Certainement. Quel va être l'impact politique de ça? Je suis pas prêt à dire, moi, que la population... aux États-Unis, d'ailleurs, là, hommes-femmes, là, les sondages sont très clairs. La majorité des Américains souhaitent que l'avortement soit sécur, légal et rare. Voilà où est le consensus américain. Et à force de vouloir l'interdire et de créer essentiellement quelque chose qui est encore plus dommageable pour les familles et les femmes à faible revenu ou à peu de moyens, il n'est pas impossible que les femmes et les Américains en général se rebelle aux prochaines élections et décide que ça devienne une question qui favorise davantage les démocrates. Rien de ça n'est écrit, mais c'est pas du tout certain que ça va être une stratégie gagnante à terme pour les républicains.
Non, et malheureusement, on utilise encore les droits des femmes comme arme politique pour faire avancer les intérêts des uns et cadeau pour les autres. C'est assez particulier et finalement... un peu décourageant, pour être honnête, Guillaume. Revenons à ce qui se passe en France, dans l'Hexagone. Eh bien, la réforme des retraites a été adoptée. Les motions de défiance pour faire tomber le gouvernement ont été écartées et défaites. Dans quelle posture se trouve aujourd'hui Emmanuel Macron?
Il doit être très, très heureux de ne pas être en élection dans les 6 prochains mois. On va dire ça comme ça, Yasmine. Parce qu'il a utilisé ce qu'on appellerait, là, dans l'espèce d'histoire constitutionnelle française, l'option nucléaire. C'est une clause qui fait peu de sens, dans mon analyse. La fameuse clause 49.3 qui permet de faire adopter une loi sans la mettre au vote. C'est quand même assez exceptionnel. Et en échange, ben, il y a un vote de confiance pour le gouvernement. Mais moi, je trouve que c'est une clause qui permet à tout le monde de se cacher en dessous du tapis. Parce que personne n'a eu à voter. Donc, ça permet de faire passer des lois impopulaires, mais quelquefois, les choses impopulaires sont les choses qui doivent être faites. C'est quand même un peu particulier d'avoir un régime de retraite qui est plus généreux que tout ce qui existe ailleurs. Et en plus, disons-le, en France, les retraites ne sont pas capitalisées. Ils n'ont pas de caisse de dépôt qui fait fructifier les fonds déposés, eux, pour ça. Alors, eux, à chaque fois qu'il y a des dépenses de retraite, c'est comme nous, les dépenses de santé. Et s'il y a, par exemple, plus de gens qui vont à l'hôpital une année, on paye plus. Et s'il y a plus de retraités en France une année, on paye plus. Dans un cadre où la population vieillit, il n'y a rien de ça qui est une bonne nouvelle. Mais là, qui va porter l'odieux politique de cette réforme-là?
Présentement, c'est pas clair avec le 49-3 qui va être l'incroyable coupable, sinon, bien sûr, que le président Macron, mais Marine Le Pen et son parti, qui sont essentiellement des populistes nationalistes, eux se sont absolument positionnés contre cette réforme. Je vous dirais que je ne suis pas certain si cette réforme-là, dans le cadre où elle a été faite, ne va pas être du Red Bull politique pour le parti de Marine Le Pen.
C'est assez particulier pour Marine Le Pen de voir qu'elle a finalement le positionnement politique à droite à géométrie variable. C'est pas grave si les régimes de retraite ne sont pas capitalisés. Le plus important, c'est de miser sur un vote. Penses-tu qu'elle espérait réellement que le gouvernement tombe et qu'elle puisse partir en élection sur des législatives?
Je suis assez surpris qu'il ne soit pas tombé, mais à un moment donné, il y a le réflexe de base de la majorité des élus qui disent qu'on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Il y a probablement beaucoup d'élus, et c'est un peu ce qui m'enrage avec ce type de méthode, c'est de dire, bon, mais on passe la loi, mais il y a plein d'autres raisons de voter pour la confiance du gouvernement, à commencer par s'assurer, nous, de rester confortablement au pouvoir. Là-dessus, l'approche britannique, elle est plus transparente pour l'électorat. Si le gouvernement échoue à faire passer une loi importante, par exemple aujourd'hui de budget, ben ça veut dire que le gouvernement n'est pas capable de gouverner puis devrait s'en aller chez eux. Puis on aura une élection. Les choses sont claires, elles sont transparentes. À force de gommer dans toutes sortes de méandres constitutionnels les choses, on finit par augmenter la colère. Plus on dilue la responsabilité des élus ou des différents partis à savoir qui a fait quoi, plus à la fin, je dirais que l'apathie et le décrochage face aux institutions augmentent. Et c'est probablement ça qui va se passer. Et ceux qui gagnent là-dedans, c'est toujours les partis populistes plus nationalistes. Parce qu'on n'a plus, quand on dit que Marine Le Pen ou encore Donald Trump sont à droite, il faut savoir que leurs propositions économiques sont particulièrement ancrées à gauche. Alors, ce ne sont plus des partis typiques droite-gauche, ce sont des partis populistes, des solutions simples à des problèmes complexes, et nationalistes, tout dans l'intérêt de l'électorat national, au diable reste et certainement le long terme.
Et au diable la responsabilité. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.
Allez à l'Opéra! On prend la Bastille! On fait la révolution!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
La rencontre. Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix tous les quatre heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
Airbnb est devenu le sujet de l'heure à cause de ce brasier qui aurait coûté la vie à au moins 7 personnes, dont 6 manquent toujours à l'appel. On n'a toujours pas retrouvé les corps. Québec lance la balle à Montréal, Montréal lance la balle à Québec. Qui a raison, qui a tort? J'ai l'impression que finalement, on a tous tort, tout le monde, toute la collectivité. Je commence avec toi, Marie. Est-ce que Québec a raison de pointer Montréal du doigt?
C'est vraiment quand même pas très édifiant là, comme partie de ping-pong depuis hier, de personne veut prendre la chaleur. C'est un Airbnb, là, ça fait longtemps là, qu'on sait qu'il y a des enjeux au niveau de la légalité de ce qui est affiché. Là, on a vu qu'il y avait deux types, je veux dire, dans le jeu. Il y a le fait qu'il y a des endroits où ça a été complètement interdit par... là, on va prendre Montréal parce que c'est quand même là qu'on en retrouve le plus, puis c'est là que l'exemple, le cas s'est produit. Mais Montréal, il y a des secteurs où c'est carrément interdit, dont dans le Vieux-Montréal où s'est produit l'incendie. Puis on voit qu'il y a quand même des milliers d'annonces qui sont affichées. Puis d'un autre côté, tu as la loi sur l'hébergement touristique qui a été... tu sais, qui date de 2021. Je veux dire, c'est quand même très, très récent, là, qui normalement oblige les locataires à afficher le fameux le numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. On se rend compte que finalement, la plupart en ont pas. Tu sais, donc finalement, tu sais, ce que je reproche maintenant, c'est que là, on a un exemple qui ont des conséquences tragiques. Mais c'est un exemple de tout ce qui fonctionne pas justement avec cette plateforme-là et ce qui aurait dû être fait. Là, on a vu la période de questions aujourd'hui risque de brasser quand même assez fortement parce que la ministre Proulx a été interrogée, tu sais, dans les derniers mois, puis sur ces questions-là. Puis je veux dire qu'elle s'en lavait un petit peu les mains là. Elle répondait, puis ça va y faire mal là. Les extraits qui sont en train de ressortir où elle accusait entre autres le député du PQ Joël Arsenault de pas suivre la game, puis que tout était correct, puis que la loi était efficace, puis être efficiente. Puis on le voit qu'il y a un trou dans cette loi-là parce que, tu sais, moi, toi, Yasmine, on peut décider d'afficher notre appartement. Là, Airbnb te demande, avez-vous... Il y a un petit rappel qui arrive. Vous avez besoin d'un numéro d'enregistrement, c'est de la CITQ. Si tu le donnes pas, ce numéro-là, tu peux quand même... mettre ton annonce sur le site et tu peux quand même faire une location. Donc, tu sais, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Là, ce qu'on sait, c'est que Québec solidaire, Québec solidaire sont intervenus beaucoup dans ce dossier-là parce qu'il y a différents enjeux par rapport à Airbnb. Tu sais, on l'a vu il y a deux semaines à peine, là, un propriétaire qui reprend un bloc appartement complet, qui met des dizaines de personnes du jour au lendemain à la porte pour en faire un logement Airbnb. Donc, on a un enjeu présentement d'accès au logement. Donc, faut restreindre à ce niveau-là. Mais là, il y a une motion qui va être déposée par Québec solidaire pour obliger, justement, l'utilisation de ce projet-là et qu'il y ait une contrainte, qu'il y ait des amendes qui soient mises en place par le gouvernement du Québec si c'est pas disponible.
Mais on se perd pas dans ce débat-là, Steve, à trop parler de Airbnb puis de son illégalité, sa légalité, du chiffre de les différentes contraintes, plutôt que juste reconnaître que on a un problème d'inspection des bâtiments, s'ils sont sécuritaires ou pas, qu'ils soient des locations temporaires ou pas. Steve?
Oui, non, moi je pense pas parce que Airbnb fait partie du problème. Et puis, y a un chiffre, moi, qui m'a complètement sidéré. Puis il est venu du chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal, Aref Salem, quand il a dit 95% des offres locatives dans Montréal sont illégales. Puis on sait que, par exemple, à Vancouver, on est rendu à 70 jusqu'à 75%, parce que ça fluctue, hein, les annonces, il y en a que ça vient puis ça part, mais on a noté jusqu'à 75% d'offres qui étaient légitimes, donc légales à Vancouver. Il y a manière de fonctionner, puis il y a quelque chose à faire avec ça, mais manifestement, il y a eu un laisser-aller. Puis, tu sais, Marie, quand tu parlais de l'extrait de Joël Arsenault, là, je veux dire, il a mis ça hier sur Twitter, puis on écoute ça, puis on se dit, mais voyons donc, c'est qui est en dehors de la game? Je veux dire, là, pendant que ces gens-là sont là, puis que, tu sais, je veux dire, nous, on est là, on débat, puis que les gens du ministère, de tous les ministères, Montréal, ça se renvoie, Québec, différents ministères, puis, pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de chercher, il va y avoir des caméras infrarouges, on n'a même pas encore tout fini de découvrir les corps, puis je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'on en soit là, puis non seulement il va falloir qu'on réglemente plus, mais il faudra aussi qu'on le fasse à deux niveaux, c'est-à-dire que peut-être qu'il devrait y avoir comme une espèce de seuil en bas duquel on ne peut pas procéder à ce genre de d'offres locatives-là, quand, par exemple, 30% d'occupation n'est pas disponible pour ceux qui sont là, parce que c'est pas possible. Puis l'autre affaire là-dedans, c'est le propriétaire de ce logement-là. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. parce que je pense aux appels qui ont été faits par le couple, la jeune fille de 18 ans, puis son copain, puis je me dis, mais c'est terrible. On débat de ça, puis pourtant, mais c'est encore possible de faire des locations aujourd'hui.
Mais c'est une question de location, une question d'inspection des bâtiments, qu'ils soient locatifs ou pas, s'assurer d'avoir des bâtiments qui puissent respecter le code du bâtiment, Marie?
Bien, dans le cas justement auquel fait référence, c'est Steve, tu nommes, l'appel qu'on a entendu au 911, on est l'enjeu premier, puis ça je suis d'accord avec Yasmine, il ne faut pas occulter l'enjeu de la sécurité des bâtiments puis de la conformité au code du bâtiment. C'est multiple, là, c'est multifacette là, l'enjeu. Là. Il y a peut-être question d'un incendie criminel. Donc ça, c'est un des enjeux. Ouais. Deux, il y a toute la question qui est soulevée par rapport à Airbnb, mais dans le cas, l'appel dont tu parles, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y avait pas une deuxième sortie. Tu sais, dans le cas du bâtiment, là, c'est obligatoire. Tu es obligé d'avoir dans ta maison, dans ton condo, dans ton appartement, une deuxième sortie de sécurité, une deuxième sortie, point, justement pour éviter ce genre de situation-là où il y a une barrière de feu, où il y a quelque chose à l'entrée. Il faut que tu aies un plan B pour pouvoir sortir. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans ce cas
potentiellement.
Ben, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y avait rien, tu sais. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Et si c'est effectivement le cas qui se confirme, là, il y a des pénalités importantes. Je veux dire, tu sais, on peut pas occulter ça. Le propriétaire a été négligent. Là.
Est-ce que c'est le propriétaire qui était négligent? Mais est-ce que c'est le propriétaire qui était négligent ou est-ce que c'est la ville de Montréal qui devrait avoir des inspecteurs qui doivent exiger, sinon fermer, les bâtiments qui n'ont pas les issues de secours nécessaires?
Les deux choses.
Certainement, mais c'est pas réaliste de penser qu'il y a des que demain matin il y a des inspecteurs qui vont aller visiter chaque appartement, chaque maison, chaque condo de Montréal. Tu sais, il y a une responsabilité quand tu es propriétaire aussi, surtout quand tu fais du locatif, de respecter le code du bâtiment, de t'assurer. Je veux dire, c'est des questions de conformité. Après ça, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits? Tu sais, il y a plein d'étapes qui font que tu devrais être obligé de le respecter. Est-ce qu'il y a eu une négligence? Est-ce qu'il y a eu du laxisme? Ça, c'est tout à vérifier aussi. Là.
Mais je pense que ça doit être ça, la question sur laquelle on va devoir se pencher. On va revenir sur ce dossier-là demain parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Marie, Steve, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
À demain.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346.
187-CUBE Radio.
Je reviens sur l'incendie dans le Vieux-Montréal qui a coûté la vie à probablement 7 personnes. Ça reste à confirmer. On n'a pas encore sorti tous les corps. On ne les a pas encore identifiés. Mais chose certaine, il s'agit d'une tragédie humaine qui va nous avoir marqués et j'espère qu'on va en avoir tiré des conclusions et tiré des leçons pour que les choses changent sur différents plans et des chantiers. On en a pour nous tenir occupés pendant plusieurs années. Québec veut resserrer la loi sur l'hébergement touristique pour empêcher Airbnb et d'autres plateformes du genre d'annoncer des logements qui ne sont pas dûment enregistrés auprès de Revenu Québec. Quelles seront les prochaines étapes et quelle est la responsabilité de la Ville de Montréal? On en parle avec Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal et membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial. Bonjour, Monsieur Rabouin.
Bonjour.
Expliquez-nous, quelle est la responsabilité de la Ville en matière d'inspection pour faire respecter sa réglementation?
Bon, là, il y a tout un enjeu de bien comprendre le rôle du gouvernement du Québec, le rôle de la Ville, parce que les gens ont l'impression qu'on se renvoie la balle. On ne se renvoie pas la balle. On est vraiment, tous les deux, on a une responsabilité à faire. On travaille déjà en collaboration. Il faut renforcer cette collaboration-là. Donc, le gouvernement du Québec, lui, il a une loi, la loi provinciale, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, là, il exige que les locations touristiques obtiennent un numéro d'enregistrement.
Oui.
Pour obtenir ce numéro-là, il faut prouver à la Corporation de tourisme, à CTQ, que le logement est conforme à la réglementation municipale. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve sur les sites web, sur les sites de location de toutes les grandes plateformes, plein de logements à louer en location touristique qui n'ont pas de numéro d'enregistrement. Donc, la loi n'est pas respectée. Donc, ce qui a été annoncé hier par la ministre, là, c'est une excellente nouvelle que le gouvernement dise on va resserrer la loi pour s'assurer que tout ce qui est annoncé respecte la loi, donc la réglementation municipale. Ça, c'est le bout de Québec, et nous, on salue ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça va beaucoup nous aider. Nous, en décembre dernier, on a annoncé à Montréal, sur le plateau, mais aussi dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, qui sont les plus touchés là, par la location touristique, là, c'est là où il y en a le plus, là, c'est les quartiers centraux. On a dit, OK, nous, il faut qu'on en fasse plus, qu'on soit plus proactif. C'est un problème vraiment majeur, c'est des milliers de logements qui sont plus disponibles pour des résidents en pleine crise de logement. Donc, on a décidé de créer une escouade spécialisée pour la location touristique pour être capable de les repérer, parce que vous savez, sur les sites, on ne voit pas les adresses. Là. On voit
mais, M. Rabouin, j'ai tout de même j'ai de la misère à comprendre comment se fait-il que la Ville ne fait pas d'inspection auprès des bâtiments que l'on soupçonne de faire de la location dite illégale pour déterminer à tout le moins sur le volet sécuritaire, là, tu sais, une question, par exemple, de prévention d'incendie.
Oui, bon. Première chose, c'est qu'il y en a des milliers. Et pour arriver à faire des inspections, il faut trouver où ils sont exactement. Et pour ça, ben, il faut faire des réservations parce que on n'a pas accès aux adresses. Et c'est pour ça que l'escouade qu'on a créée, là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait déjà, mais ponctuellement avec des ressources vraiment limitées, c'est qu'on fait, il y a des inspecteurs qui font des locations, qui vont sur les lieux, qui prennent des photos, qui réussissent à démontrer que c'est les mêmes photos que sur le site web, donc que c'est pas conforme. C'est fastidieux comme démarche un par un. Et l'avantage de la loi du Québec, c'est que ça pourrait régler le problème vraiment d'une très grande proportion, là, probablement autour de 90% des logements qui sont affichés sont déjà pas conformes. Donc, s'ils peuvent pas être affichés, on va avoir réglé une grande partie du problème. Et là, nous, la Ville, on va pouvoir se concentrer sur les quelques cas récalcitrants.
Combien de... c'est quoi le budget qui est accordé aux différentes à cette escouade dont vous nous parlez pour faire ces inspections, faire ces vérifications et suivre ces récalcitrants?
Oui, donc là, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on va créer une petite équipe là, d'environ 4-5 personnes qui vont être spécialisées. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de développer la bonne méthode qui va nous permettre non seulement de donner des contraventions à la Ville, sur la réglementation municipale. Vous savez, nous, la Ville, on ne peut pas donner des contraventions de plus que 2 000. La loi nous plafonne à 2 000. Revenu Québec peut donner des amendes jusqu'à 25 000. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec Revenu Québec pour être sûr que l'information que nos inspecteurs vont aller chercher pour que nous, la Ville, on émette nos constats à 2 000, qu'ils puissent transférer l'information et qu'elle soit utilisable par Revenu Québec pour qu'eux puissent, par-dessus, là, aller aussi donner des amendes qui vont être beaucoup plus dissuasives. Donc, c'est une équipe d'environ 5-6 personnes pour débuter dans les 3 quartiers centraux. Et là, on va voir à l'usage parce qu'évidemment, tous les arrondissements autour du plateau du Sud-Ouest et de Ville-Marie, il y en a aussi de la location touristique dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans Rosemont-Petite-Patrie, dans Verdun. Donc, on pense que là, une fois qu'on va avoir bien trouvé la mécanique, là, on va être capable d'étendre le service plus largement.
Au-delà de la location temporaire, comment se fait-il qu'il y ait des bâtiments qui soient tolérés, où il n'y a pas de sortie de secours, qui représentent un danger en cas de... un peu comme on l'a vu dans les derniers jours, là, en cas de brasier? Ça, c'est bien la responsabilité de la Ville. Là. Je ne peux pas croire que c'est Québec aussi qui va devoir assumer cette responsabilité-là.
Bien, j'écoutais juste avant mon intervention l'intervenante qui a parlé sur la question. S'il y a une demande, nous, dans le fond, nos inspecteurs, ils interviennent quand il y a une demande de permis pour des travaux. Donc, s'il y a des travaux, une demande de permis, on a des inspecteurs et là, on sait la situation. Ou s'il y a une plainte. Donc, s'il y a quelqu'un qui constate quelque chose dans un immeuble qui n'est pas conforme au code du bâtiment, tout de suite, on envoie des inspecteurs. Mais on peut pas faire tous les immeubles à Montréal. Donc, c'est vraiment sur plainte ou lors de permis qu'on intervient.
Mais on s'entend que quand c'est des bâtiments patrimoniaux, là, il y en a pas des millions non plus. On sait que les nouveaux bâtiments sont, avant d'avoir eu leur permis, respectent le code du bâtiment, mais les plus vieux représenteraient potentiellement des dangers. Pourquoi ne pas faire un chantier, une espèce de corvée sur les bâtiments patrimoniaux?
Oui, d'abord, il y a les bâtiments patrimoniaux dans lesquels il n'y a pas toujours de l'habitation. ni de la location touristique. On a un cadre bâti quand même. Les immeubles à Montréal, en général, ont plusieurs dizaines d'années, là. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va cibler dans notre escouade, d'arriver à identifier les lieux qui sont les prioritaires pour commencer nos interventions.
Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal et membre du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, on retrouve Yasmine Abdel Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Si tu le veux bien, on se rend tout de suite à Ottawa. Période des questions, Yasmine, alors que le Bloc est à questionner Justin Trudeau sur le vérificateur et demande encore une enquête publique sur l'ingérence chinoise.
Ils ont été nommés par un politicien conservateur. Les Canadiens rejettent les attaques sans fondement contre un homme qui a consacré sa carrière au service des Canadiens. Tant qu'au fédéralisme de mon honorable collègue, je vais laisser lui expliquer comment il se trouve à ce point-là.
L'honorable député de Burnaby Sud.
You Democrats care deeply about democracy and are deeply concerned.
Croient fermement dans la démocratie et sont très préoccupés par rapport à l'ingérence politique. Voilà pourquoi ils ont forcé le gouvernement à mettre fin à l'obstruction en comité pour permettre à la chef de cabinet de venir témoigner. Mais ça veut dire que la motion des conservateurs est maintenant inutile. C'est pas surprenant parce qu'ils ne veulent que jouer à des jeux. Et en ce moment, ils sont en train de bloquer notre motion pour qu'il y ait un vote en cette chambre relativement à une commission d'enquête publique. Alors, j'ai une question pour le chef conservateur. Pourquoi jouer à des jeux? Qu'a-t-il à cacher? Pourquoi ne pas répondre?
Le chef, donc, du NPD, là, qui, bon, parle des motions parce que, Yasmine, en principe, si ça avait fait l'objet d'un vote de confiance, le gouvernement aurait pu tomber, je dis bien en principe, là, aurait pu tomber cet après-midi. Les libéraux, donc, qui ont cédé à la chef de cabinet, donc, de Trudeau, Katie Telford, qui accepte de témoigner concernant l'ingérence chinoise lors des élections de 2019 et 2021. Et on le voit, là, ça amène pas mal d'actions à Ottawa en ce moment, Yasmine.
C'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Et j'ai l'impression que le gouvernement, à chaque fois, le gouvernement Trudeau, recule à chaque fois un petit peu, puis cède un petit peu plus sur des questions, par exemple, de la comparution de la chef de cabinet du premier ministre à cette commission parlementaire sur l'ingérence de la Chine dans notre démocratie. Ceci étant, là encore une fois, on est dans une stratégie de gagner du temps. Donc, quand est-ce qu'aura lieu cette comparution de la chef de cabinet? Et surtout, à quelles questions voudra-t-elle bien répondre? Parce que si elle arrive pour nous finalement dire « je ne répondrai pas à cette question et je ne répondrai pas à cette question », ça va juste rallumer un feu où les partis d'opposition vont dire « regardez, on ne nous dit rien, on ne nous donne aucune information et on ne répond pas à nos questions ». D'où l'importance de mettre sur pied une commission d'enquête publique et indépendante et que la question du rapporteur spécial devient caduque, obsolète et ne servant strictement à rien, un peu comme en utilisant les arguments du Bloc québécois. Est-ce que Justin Trudeau va finir par devoir mettre sur pied cette commission d'enquête et reconnaître finalement qu'il a eu tort d'essayer de gagner du temps, d'essayer de mettre ça derrière lui? Rien n'est moins sûr. J'ai l'impression que le premier ministre est même prêt à aller très loin sans déclencher cette commission d'enquête. Et ça nous donne l'impression qu'il a vraiment quelque chose à cacher. Et on n'aime pas cette odeur de suspicion qui commence à se faire de plus en plus persistante à la Chambre des communes.
Chose certaine, les oppositions gardent le sujet bien vivant, là, ça c'est clair.
Oui, on voit que Jack Meetsing, d'ailleurs, il est très en forme et on dirait qu'ils sont en train de se chicaner pour une question de poutine parlementaire. Quelle motion va passer
avec
en premier?
Avec les conservateurs.
Avec les conservateurs, les adversaires ne sont plus les libéraux maintenant, c'est rendu les conservateurs. Et c'est là où je trouve dommage que la partisanerie devienne un obstacle à mettre la lumière sur des questions les plus importantes, notamment la question de l'ingérence. Je trouve ça bien dommage que le NPD dépense une question en chambre pour apostropher les conservateurs plutôt que de poser des questions fort légitimes aux libéraux et leur demander qu'est-ce qu'il en est de cette ingérence-là et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les prochaines étapes.
Autre sujet, Yasmine, pour voir la lumière au bout du tunnel, tu vas me pardonner ce jeu de mots-là, ça va coûter pas mal plus cher, là.
Pas mal plus cher. On parle d'un milliard de plus, mais un milliard de plus par rapport à la dernière mise à jour du budget. Mais le Journal de Montréal nous rappelait ce matin que dès 2019, lors d'une annonce entre Ottawa et Québec de la réfection du tunnel Louis-H.-Lafontaine, on parlait d'un demi-milliard. Donc, on est passé d'un demi-milliard à 2 milliards et quelques. C'est quand même énorme. Faut dire que c'est très facile aujourd'hui, en 2023, de dire ben on aurait peut-être dû, à la place de rénover un vieux tunnel, juste en construire une nouvelle voie qui puisse relier l'est de la ville de Montréal à la rive sud. Mais c'est très facile de le dire une fois qu'on sait maintenant combien ça coûte et quelle est l'ampleur des travaux qu'il fallait faire à l'interne. C'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Moi, je pense que la pandémie, l'inflation, la hausse des coûts des matériaux, la rareté de la main-d'œuvre, ce sont tous des paramètres qui font en sorte que la rénovation de quelques chantiers que ce soit, encore à plus forte raison lorsque c'est une infrastructure aussi stratégique et importante que le tunnel, ça fasse exploser des coûts. Il fallait s'y attendre. Et aujourd'hui, ben, on a le chiffre, c'est 1 milliard.
Ouais, on a l'impression que c'est comme pour une vieille maison. On veut abattre un mur et là, on se rend compte qu'il y a de la moisissure, on se rend compte de tous les autres problèmes. Là.
Exactement. Ouais.
Merci, Yasmine.
Merci, Marianne.
Bonne fin de journée à toi.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse entre les mains de Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain.
Cube Radio.